Vous écoutez, on lit pour vous.
J'ai tué ton fils. Un texte de Louise Leduc paru le 19 mai 2026 dans la presse. Julie rentrait de l'épicerie quand l'ami de son fils s'est précipité vers elle. J'ai tué ton fils. Julie est un nom fictif. La mère, qui a à cœur de faire de la sensibilisation, a demandé l'anonymat parce que son fils, alors mineur, souhaite tourner la page. Les deux adolescents étaient partis en excursion en VTT. Et comme pour environ 80 jeunes par année ces derniers temps, les conséquences ont été dramatiques, se désolent les hôpitaux pédiatriques du Québec. Malgré son piteux état, l'adolescent a réussi à tirer le fils de Julie de l'eau. Ils étaient tombés d'un pont de 14 pieds dans une rivière. Julie n'en a jamais voulu au jeune conducteur. Il restera toujours un héros à mes yeux. C'est lui qui a sorti mon fils de l'eau. Cela a été déterminant comme le fait que le fils de Julie portait un casque de très haute qualité. Son fils n'était pas mort. Il est resté dans le coma 3 jours et demi, les plus longs de la vie de Julie. 9 jours plus tard, il était à la maison, se souvient Julie. À l'hôpital, ils l'ont qualifié de miraculé, d'autant qu'il n'a aucune séquelle. Julie le dit et le répète, partir en VTT avec un très bon équipement de protection, ça sauve une vie. Mon fils ne part jamais sans son casque et son plastron. C'est l'hôpital de Montréal pour enfants qui a souhaité que les médias mettent en lumière cet enjeu en début de saison. Traumatisme crânien, amputation, lacération de la rate, du foie, des reins, perforation des intestins, lésions médulaires. Les si nombreux jeunes blessés en VTT sont loin de s'en sortir toujours aussi bien que le fils de Julie. Les données de 2025 de l'hôpital de Montréal pour enfants révèlent une hausse de 50 % des blessures par rapport à la moyenne annuelle, soit 40 cas. En tout, 76 % des cas de 2025 étaient des adolescents âgés de 12 à 18 ans. Cependant, l'hôpital de Montréal pour enfants note avoir traité un enfant âgé d'à peine 2 ans. Très souvent sans casque. Au surplus, 60 % des patients reçus en traumatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants ne portaient pas de casque au moment de l'accident. Parmi les jeunes qui ont dû être hospitalisés en raison de leurs blessures graves, aucun ne portait de casque. Selon la loi, pour avoir le droit de conduire un VTT, il faut être âgé d'au moins 16 ans. Mais, comme dans la famille de Julie qui possède une grande terre à la campagne, le VTT fait souvent partie intégrante du mode de vie en région et les adolescents sont nombreux à en conduire un très tôt. Jusqu'en 2025, les blessés de VTT qui étaient soignés à l'hôpital de Montréal pour enfants provenaient surtout des régions nordiques. Mais en 2025, on a eu davantage de blessés qui habitent autour de Montréal, de Lanaudière, des Laurentides ou de l'Estrie, indique Liane Franz-Blo, coordonnatrice de la traumatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants. Du côté du CHU Sainte-Justine, entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2026, 65 patients ont été admis à une unité de soins en raison de blessures liées au VTT. De ce nombre, 12 patients ont été hospitalisés aux soins intensifs. Pour leur part, les hôpitaux de Québec, Enfant Jésus et Centre Mère Enfant Soleil, qui reçoivent les blessés graves du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Beauce, entre autres, ont indiqué avoir soigné 24 blessés annuellement ces dernières années. Pendant la pandémie, il y a eu une explosion au Québec des ventes de VTT. L'engouement pour ces véhicules a ralenti à partir de 2024. Les accidents chez les adultes sont aussi très nombreux et tragiques. En 2025, une jeune policière a été tuée par son ami qui conduisait son VTT en état d'ébriété et qui a été condamnée à 18 mois de prison. C'était « J'ai tué ton fils », un texte de Louise Leduc paru le 19 mai 2026 dans la presse.
Le grand ménage du printemps, un texte d'Alain McKenna, paru le 22 avril 2026 dans la presse. Un lecteur, Bernard Pilote, demande « Je me fais souvent proposer des applications comme CleanUp pour nettoyer mon iPhone de tout ce qui est inutile et inutilisable. Ces applications gratuites sont-elles vraiment efficaces ou c'est une fausse bonne idée? » C'est une fausse bonne idée. Sur un iPhone, le système d'exploitation fonctionne en vase clos. Chaque application reste isolée dans son propre espace de sécurité. Un logiciel de nettoyage ne possède aucune autorisation pour vider la mémoire cache des autres applications. La promesse de base est donc techniquement fausse. Ces outils gratuits se contentent de repérer vos photos en double ou vos vidéos volumineuses. Votre appareil a déjà cette fonction intégrée, sans frais et sans publicité. Certaines de ces applications cachent parfois des abonnements ou collectent vos données personnelles. C'est l'équivalent d'inviter un inconnu chez vous pour faire le ménage, pour ensuite découvrir qu'il a fouillé dans vos tiroirs. Pour récupérer de l'espace, dans les réglages de votre téléphone, Apple et Google vous proposent des recommandations précises et sécuritaires pour effacer vos vieux messages ou désinstaller les jeux oubliés sans risque. Une lectrice, Julie Éon, demande « Quelqu'un de mon entourage m'a dit qu'un pirate informatique pourrait prendre le contrôle de mon aspirateur robot et ainsi espionner ma maison via la caméra. Est-ce vrai que ces objets connectés peuvent être piratés? » Ce scénario, digne d'un film d'espionnage, est techniquement réaliste. Un aspirateur robot moderne est un petit ordinateur sur roues, équipé de caméras et relié à votre réseau domestique. On sait depuis des années que les objets connectés sont le talon d'Achille de la cybersécurité grand public. Pour minimiser leurs coûts, plusieurs fabricants bâclent la sécurité de leurs produits ou cessent de les prendre en charge après quelques années. Ces appareils deviennent une porte grande ouverte pour les pirates. Paniquer est inutile, cela dit. Les cybercriminels ne prendront pratiquement jamais le temps de vous observer. Ils vont exploiter la puissance de vos machines pour lancer des attaques informatiques ailleurs sur le web. Verrouillez votre domicile numérique. Remplacez le mot de passe de votre routeur Wi-Fi par un code robuste. Privilégiez les objets connectés de marques connues. Ces fabricants mettent leur logiciel à jour pour boucher les failles de sécurité. Entre deux utilisations, un morceau de ruban adhésif opaque sur la caméra de votre aspirateur vous protégera des éventuels regards indiscrets. Un lecteur, Normand Boutin, demande « J'ai dû laisser mon ordinateur personnel quelques jours chez le réparateur pour qu'il puisse diagnostiquer un problème. Peut-on laisser notre ordinateur avec tout son contenu en toute confiance à ces gens? » La confiance n'exclut pas la prudence. Laisser votre PC à un réparateur ressemble un peu à donner les clés de votre maison à un entrepreneur avec vos relevés bancaires sur la table du salon. La très grande majorité des réparateurs sont des professionnels honnêtes. Ils cherchent à remplacer un écran brisé ou à tester une mémoire défectueuse, pas à fouiller dans vos photos. Leur temps est compté. Le risque qu'un employé trop curieux passe par là n'est pas nul. Une préparation s'impose avant la visite au magasin. Sauvegardez vos données sur un disque externe et limitez les accès. Si le bris est physique, le technicien n'a pas besoin de votre mot de passe. Sinon, créez un profil d'utilisateur invité pour lui permettre d'allumer et de tester la machine. La protection idéale en tout temps est de regrouper vos documents financiers et personnels dans un dossier protégé par un mot de passe distinct. C'était « Le grand ménage du printemps », un texte d'Alain McKenna, paru le 22 avril 2026 dans la presse. Thank you.
Ce que les chats peuvent nous apprendre sur les cancers humains. Un texte de Geoffrey Wood, paru le 8 mai 2026 dans La Conversation. Les chats vivent dans nos maisons, boivent notre eau et dorment même dans nos lits. Ils sont des membres à part entière de nombreux foyers et partagent notre vie. Ils présentent également de nombreuses similitudes biologiques avec nous. Les chats ont un taux de cancer similaire à celui des humains et développent souvent les mêmes types de cancers. Comme pour les humains, l'amélioration des soins de santé et de l'alimentation leur permet de vivre plus longtemps, ce qui augmente leur risque de souffrir d'un cancer au cours de leur vie. Avec mes collègues, nous nous sommes demandé si les cancers félins ressemblaient aux cancers humains sur le plan génétique. Nous avons mené la plus grande étude jamais réalisée sur le séquençage de l'ADN des tumeurs des chats. Nos recherches ont révélé des similitudes frappantes entre les cancers félins et humains, et les résultats laissent entrevoir des retombées positives tant pour les chats que pour nous. Notre collaboration internationale a permis de publier récemment une étude portant sur les tumeurs de 500 chats et couvrant 13 types de tumeurs. Nous avons isolé l'ADN de ces tumeurs et cartographié la séquence de 1000 gènes qui présentent souvent des mutations dans les cancers humains. Cancers félins et humains. Dans l'ensemble, le gène qui a le plus souvent muté est le gène TP5, un gène de protection contre le cancer qui est également le plus fréquemment muté dans les cancers humains. Un autre exemple est le gène PIK3CA, qui comporte une mutation dans environ 40% des cancers du sein chez l'être humain et dont on a constaté qu'il était altéré dans environ 50% des cancers mammaires chez le chat. Il existe des médicaments spécialement conçus pour les cancers humains présentant certaines mutations, comme celle du gène PIK3CA. Maintenant que nous connaissons les mutations courantes dans les cancers félins, il est possible de tester ces médicaments sur les chats. Comment étudions-nous le cancer chez les chats? Depuis 2009, la biobanque vétérinaire du Collège vétérinaire de l'Ontario, qui fait partie de l'Institut de recherche comparative sur le cancer de l'Université de Guelph, conserve des échantillons de tumeurs provenant de chats traités au centre de cancer animal. Avec le consentement du propriétaire, une partie de la tumeur prélevée lors de l'intervention chirurgicale est préservée et congelée en vue d'études futures. De plus, des échantillons sanguins sont conservés afin de servir de ressources pour mettre au point des tests de dépistage moins invasifs en utilisant des molécules associées à la maladie présentes dans le sang. Récemment, la Biobanque vétérinaire s'est jointe au consortium Biobanque Ontario afin de faciliter les études sur le cancer entre espèces. Des essais cliniques sur le cancer sont également menés chez des chats et des chiens dans le but d'utiliser les résultats de la recherche pour concevoir de meilleurs traitements pour les animaux de compagnie, mais aussi pour nous permettre de mieux comprendre les cancers humains. Les chats peuvent nous en apprendre beaucoup sur les cancers humains. Il existe plusieurs cancers ou sous-types de cancers qui sont courants chez les chats, mais rares chez nous. Le cancer mammaire triple négatif, caractérisée par l'absence de récepteurs d'œstrogène et de progestérone et du récepteur du facteur de croissance HER2, est de loin le sous-type le plus courant chez les chats. Il ne représente toutefois que 15 % des cancers du sein chez l'humain. Ce sous-type touche principalement les femmes jeunes, les femmes noires et celles présentant une prédisposition génétique héréditaire, mutation du gène BRCA1. Il est particulièrement agressif et difficile à traiter. Le cancer du pancréas est un autre exemple. Le sous-type acineux, le plus fréquent chez les chats, est relativement rare chez l'être humain. Il est donc plus facile de mener des études sur ce type de cancer chez les chats. Notre étude sur le séquençage génomique chez le chat a également révélé quelques différences dans les profils de mutation entre les cancers humains et félins. Environ 25 % des cancers humains présentent des mutations des gènes RAS, alors que ces mutations sont rares chez les chats. L'étude de ces cancers chez le chat pourrait nous aider à mieux comprendre le rôle de ces gènes dans le développement de la maladie. Génome de souris et de chat. Les associations caritatives de lutte contre le cancer et les organismes qui octroient des subventions pour la recherche en santé humaine soutiennent régulièrement des études utilisant des modèles de cancer humain chez les rongeurs, mais l'étude du cancer chez d'autres espèces animales est plus difficile à faire accepter. Les rongeurs, servant de modèle, sont génétiquement modifiés pour développer un cancer ou pour présenter un système immunitaire gravement déficient, de manière à pouvoir héberger des cellules cancéreuses humaines. Ces modèles sont très efficaces pour étudier les mécanismes moléculaires du cancer, mais leur bilan en matière de médicaments anticancéreux est médiocre. En effet, plus de 90 % des nouveaux traitements anticancéreux mis au point à partir de ces modèles échouent lors des essais cliniques humains et ne sont jamais autorisés à des fins thérapeutiques. En revanche, le cancer se développe souvent spontanément chez le chat dans le même environnement que chez les humains. Ces animaux présentent également de nombreux troubles sous-jacents ou concomitants similaires aux nôtres, tels qu'obésité, maladies auto-immunes, maladies rénales, diabète et divers autres troubles endocriniens. Le génome des chats ressemble davantage à celui des humains que le génome des souris, et l'organisation du génome félin, l'ordre des gènes sur les chromosomes, est plus proche de celle de l'être humain que ne l'est celle du chien. L'Atlas du génome du cancer est une immense base de données en libre accès qui répertorie les mutations observées dans différents types de cancers chez les humains. Aucune ressource de ce type n'existe pour les chats. Les données issues de notre récente publication sont désormais disponibles via le Wellcome Sanger Institute. Elles constitueront une ressource fondamentale et gratuite pour les chercheurs qui étudient le cancer chez les chats et les humains au bénéfice des deux espèces. C'était ce que les chats peuvent nous apprendre sur les cancers humains. Un texte de Geoffrey Wood, paru le 8 mai 2026 dans La conversation.
un nouveau guide pour prévenir et agir sur la perte d'autonomie chez les aînés, un texte de Catherine Desautels paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir. Quand la vie change, vise à aider les personnes âgées à rester à la maison le plus longtemps possible. Le vieillissement de la population s'accélère au Québec et pourtant, la perte d'autonomie demeure un sujet tabou. Dans ce contexte, un nouveau guide est lancé pour aider les aînés à prendre soin d'eux-mêmes et rester à la maison le plus longtemps possible. Les personnes âgées ont souvent de la difficulté à reconnaître qu'elles sont en perte d'autonomie. Le guide donne des trucs simples pour favoriser un vieillissement actif et encourager les bonnes habitudes de vie. Il regroupe aussi les programmes et services existants lorsque certaines tâches deviennent plus difficiles. Le cahier de 40 pages qui s'intitule « Quand la vie change » a été développé par le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Il a été distribué dans différents lieux stratégiques de son territoire, comme les résidences privées pour aînés et les pharmacies, mais le guide complet est aussi disponible en ligne à laviechange.ca. On y retrouve plusieurs sections avec des conseils ainsi que les signaux à repérer quand il est temps de demander de l'aide. On fait valoir, par exemple, l'importance de bien manger, particulièrement des protéines, et boire de l'eau même si l'appétit est moins grand. Bouger chaque jour est par ailleurs très important. On veut maintenir les acquis, on veut maintenir la force, la souplesse et sa capacité cardiovasculaire. Donc, bouger, même un petit peu, ça aide, précise le docteur Stéphane Ahern, spécialisé en médecine interne générale et en soins intensifs, qui a participé au contenu du guide. Travailler la mémoire et apprendre de nouvelles choses sont également essentiels. Il faut faire des exercices pour garder ses muscles, mais il faut aussi garder l'activité cérébrale très active. Et ça, on le voit dans les études. Donc, faire des jeux de mémoire, les mots croisés, les jeux de société avec des amis, la lecture, donne en exemple le Dr. Ahern. Il ajoute que de briser l'isolement social est l'un des marqueurs extrêmement importants. Le deuil d'une certaine autonomie. Le plus difficile pour les personnes âgées n'est pas de faire de l'exercice chaque jour ou d'organiser une routine structurée. C'est simplement d'accepter l'aide d'autrui, que ce soit un proche ou un professionnel. Je l'explique souvent à mes patients, raconte le Dr. Ahern. Des fois, accepter de l'aide, ça a l'air contre-intuitif. Tu te dis, je vais perdre mon autonomie. Mais accepter l'aide, c'est gagner de l'autonomie et gagner de la capacité à être heureux, à rester dans son milieu de vie. Francine Gravel, enseignante retraitée âgée de 71 ans, l'a vécu avec sa mère pour qui elle est proche aidante. « Je pense que ma mère, comme plusieurs autres, ont peur d'être placée s'ils demandent de l'aide, » dit-elle. Je m'entends lui dire « Ce n'est pas pour te placer, c'est le contraire. C'est pour que tu restes à la maison le plus longtemps possible. » La mère de Mme Gravel a finalement accepté. Un employé du CLSC venait matin et soir pour la prise de médicaments et aider au repas. Deux à trois fois par semaine, quelqu'un venait aussi pour l'aider à sa toilette. J'ai mis autour d'elle plein de ressources, donc malgré le diagnostic d'Alzheimer qui est arrivé, je pense que je lui ai gagné certainement 4 ou 5 ans à la maison, estime Mme Gravel. Sa mère, aujourd'hui âgée de 96 ans, vit en CHSLD en raison de la progression de la maladie. Quand tu es en perte d'autonomie, surtout quand elle s'accélère rapidement, des fois, les deuils s'imposent un peu plus vite. À ce moment-là, tu as besoin d'un petit peu plus d'aide rapidement. Mais il faut en parler, s'empresse d'ajouter le Dr. Ahern. Plus on en parle à l'avance à sa famille, plus on est capable d'être bien entouré et être capable d'avancer. Si vous êtes une personne âgée seule, vous n'êtes pas seul. Il y a une communauté autour de vous. il y a des services autour de vous. Apportez de l'humour dans le vieillissement. Le docteur Ahern souligne que pour le vieillissement dit normal, l'autonomie se perd très doucement, et il y a des personnes qui demeurent extrêmement en santé. Ceci étant dit, c'est sûr que si on met d'autres facteurs, si je rajoute la solitude et l'isolement, le manque de stimulation, les mauvaises habitudes de vie, la perte d'audition non compensée, la perte de vision non compensée, là, votre autonomie, elle, chute plus rapidement, explique-t-il. Je ne veux pas que le message soit « vieillir, c'est perdre son autonomie ». C'est « vieillir, on perd un peu d'autonomie, mais plus on s'occupe d'être actif, plus on est capable de le repousser ou de garder cette capacité d'être en action. » Francine Gravel n'a pas peur de demander de l'aide. Elle vit depuis peu dans le duplex de son fils. Elle croit qu'il ne faut pas attendre que notre état se détériore avant de lever la main. Elle envisage d'avoir de l'aide pour son ménage prochainement, même si elle est encore capable de le faire. « Mon arthrose, quand il faut que je me penche, mémé, elle commence à avoir de la misère à se mettre à genoux », raconte-t-elle en riant. D'ailleurs, Madame Gravel trouve que l'humour manque chez certains aînés à propos du vieillissement. Essayez de rire de ça. Dans mon cas, c'est un outil intéressant que j'utilise abondamment. Dans le mot « vieille », il y a le mot « vie », et c'est très beau, ça. Je ne suis pas une jeune, donc je suis vieille. Mais moi, je l'accepte en riant. C'est d'accepter qu'on est à une autre étape. C'est tout. C'était un nouveau guide pour prévenir et agir sur la perte d'autonomie chez les aînés, un texte de Catherine Desautels paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir.